Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, chaque matin de 5h à 7h, le carrefour de l'info et de la bonne humeur, grâce notamment à ce tandem comique qui n'est pas sans nous rappeler les vamps à leur début.
Voilà.
À l'approche des fêtes, au frais du rire, au frais du lol, avec le coffret DVD Blu-ray, les petites perles de Céline et Eva. Vous y retrouverez tous leurs plus grands succès, comme Mon mari, il aime Maria Carré.
Mon mec, il a été là-bas en concert.
Ah ouais,
il adore Maria Carré.
Mais elle chante faux.
Et ben justement.
Mais aussi des inédits, comme le sketch de La Nuit des Étoiles.
T'as vu, c'est La Nuit des Étoiles filante. S'il n'y a pas de lune et pas de nuages, on peut voir une étoile filante par minute.
En ce moment ?
Ce soir.
C'était vraiment très intéressant.
Heureusement, Debout les copains, c'est aussi quand même le sérieux universitaire de Fabrice Dalméda, notre spécialiste histoire et charcuterie. Car oui, ce matin, alors que la recrudescence des intoxications à la salmonelle inquiète, Fabrice nous propose une chronique à mi-chemin de Fernand Braudel et de Charal, et dont le titre est déjà culte, Crise de la salmonelle dans la charcuterie, l'épopée d'une bactérie.
Ça donne envie.
Ah, c'est sûr qu'à 6h du mat, faut pas être végétalien.
Merci d'écouter Europe 1 ce vendredi 14 décembre. Il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 14 décembre, voici le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
L'ennemi public numéro 1 tué après 48 heures de traque. Shérif Shekat a été neutralisé dans le quartier du Neudorf à Strasbourg. Daesh le présente comme un de ses soldats. Les Strasbourgeois qui vivaient dans l'angoisse depuis deux jours sont soulagés. Le marché de Noël va aussi rouvrir aujourd'hui. Dans l'actualité également, les terribles conséquences économiques de la mobilisation des Gilets jaunes, notamment dans les Hauts-de-France. Moins 25% de chiffre d'affaires pour les commerces.
Europe 1.
La fin de deux jours d'angoisse. Hier soir, le tireur du marché de Noël a été abattu par des policiers. Il s'était replié dans le quartier du Neudorf. C'est une habitante qui l'a repéré et signalé à la police. La suite est racontée par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
À 21h, un équipage de la brigade spécialisée de terrain, composé de 3 fonctionnaires de la police nationale, ont aperçu un individu qui déambulait sur la voie publique. Cet individu correspondait au signalement de la personne recherchée depuis mardi soir. Et ce dernier s'est retourné en tirant. Ils ont alors immédiatement riposté et ont neutralisé l'assaillant. J'ai informé le président de la République et le Premier ministre. J'ai rencontré les fonctionnaires de police pour les féliciter.
Christophe Castaner au micro repeint d'Arthur Mbaché. Emmanuel Macron a également remercié l'ensemble des services mobilisés, policiers, gendarmes et militaires. Notre engagement contre le terrorisme est total, a tweeté le chef de l'État. Peu après l'annonce de la mort de Shérif Shekat, le média des propagandes de l'État islamique a affirmé qu'il faisait partie de ses soldats.
Et hier, jusque tard dans la nuit, des policiers cagoulés et lourdement armés ont quadrillé les rues près de l'endroit où a été neutralisé le terroriste.
Oui, les habitants ont vécu pendant deux jours entendant les rotations des hélicoptères, voyant des voitures de police un peu partout. Ces habitants vont pouvoir souffler, soulager de savoir que le tireur du marché de Noël a été neutralisé, comme Anne-Sophie qui vivait dans l'angoisse depuis 48 heures.
Contrairement peut-être à d'autres personnes qui arrivent à continuer à vivre, moi j'étais un peu pétrifiée chez moi. Je pense que c'est un soulagement. Après, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver demain, s'il y a des représailles ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça me permet de rentrer un peu plus tranquillement chez moi ce soir. J'ai voulu faire un détour parce que même si on est un peu dans le soulagement de ce qui vient de se passer avec l'arrestation, enfin, en l'occurrence, qu'il a été maîtrisé, je pense qu'il ne faut pas oublier les victimes qu'il y a eu et garder une pensée pour eux, parce que c'est quand même aussi le plus important dans l'histoire.
Anne-Sophie, micro de Pierre Herbulot. Et donc hier soir, quelques 1500 personnes se sont retrouvées à la cathédrale de Strasbourg quelques heures avant que Shérif Shekat ne soit abattu. Une cérémonie œcuménique pour rendre hommage aux victimes. 3 personnes sont mortes, 3 autres sont toujours entre la vie et la mort. Et puis notez que le marché de Noël va rouvrir aujourd'hui.
Alors après, il est 6h03.
Et depuis l'attentat de Strasbourg, les pouvoirs publics multiplient les appels à ne pas participer demain à l'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes.
Oui, mobilisation qui dure depuis un mois et qui a fait perdre 25% de chiffre d'affaires au commerce de la région Hauts-de-France. Chiffre révélé hier par les chambres de commerce et d'industrie. Les magasins souffrent surtout des difficultés d'approvisionnement dues au blocage. Situation particulièrement inquiétante à l'approche des fêtes de fin d'année. Lionel Gougelot.
À deux reprises, lors des manifestations de Gilets jaunes, la galerie commerciale de cet hypermarché Auchan en périphérie de Lille a dû être fermée et évacuée. Et la clientèle craint toujours des blocages, selon Louisa, vendeuse dans un magasin.
Ben, ils ont peur des Gilets jaunes, en fait. Ils ont peur de ne pas savoir faire leurs courses normalement, en fait. Et beaucoup moins de monde par rapport aux périodes, normalement, en fait, de fin d'année, où on n'a même pas le temps de respirer tellement il y a du monde. Mais là, regardez comme aujourd'hui, il n'y a quasiment personne, en fait. Du coup, nous, ça nous empêche de faire notre chiffre d'affaires.
Pour la grande surface, c'est 30% de chiffre d'affaires en moins. Et pour le directeur Johan Play, ça ne peut plus durer.
Bien sûr que non, ça ne peut pas durer. Cette crise-là doit s'arrêter très rapidement. La grande distribution, c'est les entrepôts, c'est les transporteurs, c'est les agriculteurs, c'est les petites entreprises qui, elles, sont en train de produire à plein tube. Et là, ça devient dramatique.
Un climat anxiogène qui touche jusque le commerce du centre-ville. Là aussi, une fréquentation et des chiffres d'affaires en recul. Il y aura forcément de la casse, selon Hélène Panier, présidente des commerçants du Vieux-Lille.
Il va y avoir des conséquences sur les salariés parce qu'il y a déjà beaucoup de commerçants qui se séparent de leur personnel. Au cœur de Lille, une centaine de commerçants, on a déjà une trentaine de licenciements prévus. C'est fait 30%, hein. C'est énorme. Hein.
Des commerçants qui attendent maintenant des allègements de charges pour tenter de surmonter cette crise. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale a rejeté la motion de censure déposée par la gauche, votée par seulement 70 députés, dont certains de droite. L'université Lyon 2 va rester fermée aujourd'hui après des actes de vandalisme perpétrés hier. Des conditions qui ne permettent plus d'assurer la sécurité, a indiqué la direction sur Twitter. Lors d'un blocage sur le site, des bonbonnes de gaz ont été volées sur le chantier d'un bâtiment, des accès de secours bloqués et des personnes présentes dans les locaux ont même été empêchées de sortir. Journée d'action et de grève pour les salaires et les pensions à la tête de la CGT, à l'appel de la CGT, syndicat rejoint par Solidaires et FSU. Une manifestation est prévue à 12h30 au départ de la place de la République. Et puis à Marseille, des centaines de cantines scolaires et de crèches sont touchées par une grève au sujet notamment du temps de travail. Un préavis a été déposé jusqu'aux vacances de Noël. Les parents d'élèves sont exaspérés.
Le Brexit de plus en plus incertain à Bruxelles. Les 27 se préparent désormais à toutes les éventualités.
Oui, les 27 qui doutent de la capacité de Theresa May à obtenir un vote positif de son Parlement. Isabelle Horry.
Les Européens sont en train de perdre leur flegme face aux Britanniques. Hier, ils ont écouté Theresa May leur expliquer que si elle obtenait des garanties en plus, elle pourrait arracher un vote à Westminster. Mais comme ils ne veulent pas renégocier, ils ne comprennent pas vraiment ce que la Première ministre attend d'eux. Elle est restée vague et imprécise. Pendant la discussion, la chancelière allemande l'a même interrompue pour lui demander d'expliquer ce qu'elle voulait précisément. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ne dissimule même plus son agacement quand il parle devant la presse.
Nos amis britanniques doivent dire ce qu'ils veulent au lieu de nous faire dire ce que nous voulons. Nous sommes dans un débat quelquefois nébuleux, imprécis. Madame May a conduit un combat vertueux, courageux, et les résultats ne sont pas là.
Les divisions des députés britanniques ne passent évidemment pas inaperçues à Bruxelles. L'inquiétude monte donc en flèche chez les 27. La Commission européenne vient d'annoncer qu'elle publiera la semaine prochaine toutes les informations utiles pour se préparer concrètement à une sortie sans accord. Bruxelles, Isabelle Horry. Europe.
Le gouvernement français crie à la trahison. Hier, Ford a écarté l'offre de reprise pour son site de Blanquefort en Gironde. Prochaine étape, un plan social complet pour les 850 salariés et un arrêt de la production fin août 2019. Et puis une nouvelle alerte au slim. Est-ce que vous connaissez le slim?
Le slim, les coupes de jeans slim?
Pas du tout. C'est une pâte à modeler.
Ah oui, non, c'est pas le slim, c'est le slime. C'est le slime, Céline.
Cette pâte à modeler visqueuse dont enfants raffolent et qu'ils fabriquent à partir de colle ou de lessive, eh bien, elle peut provoquer de graves lésions. La Direction générale de la Santé alerte dans un rapport que la manipulation prolongée de cette pâte peut provoquer des irritations et allergies sévères.
Pourquoi vous
le
me
slime,
avec...
le slime.
Ah oui, non mais voilà, vous découvrez des choses avec moi sur la prononciation. Merci beaucoup Céline Kallmann. Et Eva, vous savez ce qui ferait plaisir à Céline?
Une nuée de mecs?
Non, qu'on lui souhaite un bon week-end tout simplement. Tout le monde n'est pas
obsédé. Non, il suffit, ça va.
Europe 1.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique ce matin. Fabrice Dalméda délaisse les grandes de l'histoire pour se pencher sur l'infiniment petit, la salmonelle. Les intoxications liées à cette bactérie sont en augmentation depuis une dizaine d'années. On la croyait disparue, elle ressurgit et ça fait peur.
Un peu comme la chanteuse Jeanne Masse.
Une comparaison qui n'engage que vous, Eva.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo de ce vendredi avec vous, Céline Dacosta. Une journée encore très froide.
Oui, et ce sera le cas encore demain avant un redout pour dimanche. Ce matin, on a dégelé un petit peu partout du nord-est au centre-est. On a moins 7 degrés à Nevers, moins 5 à Châlons-en-Champagne, moins 3 degrés à Dijon, à Rouen, moins 2 à Mulhouse, à Lille, moins 1 à Besançon, Caen et Tours. Il fait 0 degrés à Lyon,
Paris et Strasbourg, 2 degrés à Montélimar, 4 à Aurillac, 6 degrés à Bordeaux, 8 à Nice et 12 à Biarritz. Cet après-midi, la moyenne ira de 1 à 6 degrés sur la moitié nord, de 6 à 13 degrés pour la moitié sud.
Côté ciel,
ce sera une journée plutôt agréable avec beaucoup de soleil. Après dissipation de grisailles matinales sur les Hauts-de-France, on aura un petit peu plus de nuages du sud de l'Aquitaine à l'Alsace, et ça toute la journée. Et puis il reste une zone de pluie ce matin entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et la Corse. Elle résistera sur les Pyrénées cet après-midi. Pour les autres, ce sera du soleil.
Merci Céline. Eva Roch.
Oui, depuis ce matin, on vous parle de ce sondage qui évoque les vacances à Noël. Seuls 20% des Français partent en vacances à Noël. Est-ce que c'est votre cas? Et si vous avez la chance de partir, vous partez où? On vient de recevoir un message de Jérôme. Il nous dit: j'ai l'occasion de partir tous les jours en vacances en montagne parce que je suis facteur au Markstein. Alors, je ne savais pas où c'était, c'est dans les Vosges. Il nous a envoyé une photo de sa voiture avec laquelle il fait la tournée, absolument magnifique, dans un paysage enneigé. Et Marie-France nous dit: je pars rarement en vacances faute de budget, mais je compte bien partir prochainement grâce à Europe 1 qui va m'inviter pour inaugurer les nouveaux locaux. C'est une bonne idée.
C'est bien vu. Merci Eva. Merci chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il arrive tranquillement, presque en sifflotant, alors que vu son appétit et vu qu'il est le seul à disposer d'un double des clés de notre bureau, il est pourtant le principal suspect d'une affaire grave. Les faits se sont produits cette nuit aux environs de 3h37. Cherchant à accompagner son 17e café, Eva Roch ouvre le placard de notre bureau et se trouve confrontée à l'horreur.
Oh, on s'est fait piquer nos saucissons.
Montrez vos mains, Jérôme. J'en étais sûr, elles sont toutes grasses. Oh, je suis déçu, je suis déçu. Allez, journal des sports quand même. À la une du JDS, Jérôme, voleur de saucissons, le choc, l'émotion, mais aussi la colère.
Eh oui, le monde du rugby, endeuillé par la mort du jeune espoir du Stade français, Nicolas Chauvin, 19 ans, décédé avant-hier soir des suites d'un traumatisme cervical ayant entraîné un arrêt cardiaque après un violent plaquage subi en match dimanche dernier. C'est trop, s'insurge ce matin la ministre des Sports, parce que c'est le troisième décès d'un jeune joueur lié au jeu en 7 mois à peine. Roxana Maracineanu compte rencontrer très prochainement les présidents de la Fédération et de la Ligue. Il est temps que les instances, je cite, se posent vraiment la question du pourquoi. Alors aujourd'hui, oui, dans le rugby, on peut mourir sur un plaquage. C'est pourquoi la Fédération internationale a revisité la règle cette année, émettant l'idée d'abaisser la zone limite de plaquage sous la barre de la poitrine des pectoraux. Cela en plus d'une vigilance renforcée des arbitres. Mais dans la réalité du jeu, les textes seront loin. Écoutez ce matin Hugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain.
On doit éradiquer certains gestes. On n'en veut plus. Et pour autant, les plus gros accidents n'arrivent pas forcément avec les choses les plus spectaculaires. Donc ça passe par de la technique, ça passe par de l'anticipation, ça passe par de la réactivité. Il faut quand même se regarder en face et trouver des solutions très rapidement, parce que oui, nos gamins vont commencer à fuir les écoles et à faire plus peinture et théâtre. Même si, attention, ils peuvent faire les deux. La culture est importante. S'ils peuvent faire rugby, peinture et théâtre, je suis preneur.
Des propos recueillis par Patrick Anselmetti. Et justement, Bernard Laporte, président de la Fédération, annonce la poursuite de la baisse des licenciés, moins 5% en 2018. Et ce week-end, lors des matchs, des hommages à Nicolas Chauvin auront lieu. Minute d'applaudissement avant toutes les rencontres. Et dès ce soir, au Stade français, rencontre de Coupe d'Europe.
On parle également handball ce matin, Jérôme. Et les filles de l'équipe de France y pensent depuis des semaines.
Des semaines, des mois. La finale de leur championnat d'Europe en France. Elles vont tenter d'y accéder ce soir. Il faut d'abord battre les Néerlandaises en demi-finale. Alors le match se tient à Paris, à Bercy. Bercy que les Bleus espèrent plein. 15 000 personnes et pour l'heure, il reste des places. Écoutez l'appel à sa façon du sélectionneur français Olivier Krumbholz.
Il faut laisser les enfants à monsieur pour une fois. Il faut venir avec les copines et il faut remplir Bercy.
Voilà, des propos recueillis par Christophe Lamar, Pays-Bas-France, pour une place donc en finale de l'Euro. Coup d'envoi 21h. Le foot et les Rennais qualifiés pour la première fois pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Succès 2-0 hier soir sur les Kazakhs d'Astana. Les Bordelais sont éliminés malgré un succès 1-0 à Copenhague. Et puis les Marseillais, faut bien le dire, aussi éliminés. C'était même avant le coup d'envoi. Ils ont fini par une triste défaite 3-1 à domicile face à Limassol dans un vélodrome bien peu garni. Mais il faut dire que les Provençaux étaient réduits à 10 dès la 7e minute.
Vous êtes gentil de nous trouver des circonstances atténuantes.
Il faut le préciser.
On termine, Jérôme, par l'histoire du jour.
Oui, je vous parlais des hommages rendus à Nicolas Chauvin dans le rugby. Le monde du foot rendra hommage aussi aux victimes de Strasbourg. Minute de recueillement avant chaque rencontre de Ligue 1 et Ligue 2. Et les joueurs alsaciens, les joueurs de Strasbourg, joueront demain à Reims avec un maillot spécial sans publicité en signe d'hommage donc à ces victimes.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. Et tout de suite, on retrouve celui qui est, je le rappelle, le seul agrégé du 5-7 d'Europe 1. Un historien érudit qui, avant d'atteindre les cimes du prestige universitaire, a néanmoins connu la galère. Lorsque, jeune étudiant, pour payer son loyer, il était Père Noël à la foire fouille de Vélizy 2. Mmh. Son formidable rire retentit encore dans le cœur des enfants qu'il a fait sauter sur ses genoux. Combien d'années de psychanalyse pour ces enfants? Je pose la question.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
En 2017, 2500 personnes ont été malades après avoir mangé de la charcuterie à cause de l'essor de la salmonelle typhimurium. Les contaminations ont explosé en 10 ans, mais cette bactérie, sous toutes ses variantes, sévit en fait depuis très longtemps, Fabrice Dalméda.
Ben oui, on le sait grâce à une série de chercheurs internationaux et notamment Louis Pasteur. Sa théorie sur l'existence des microbes a permis de nouvelles recherches sur les vecteurs d'une vieille maladie qui s'appelait à l'époque la fièvre typhoïde. Deux Allemands, Karl Ebert en 1880 et Theodor Gafke en 1884, repèrent un bacille et comprennent son mode de transmission par les sels humains et animaliers. Le manque d'hygiène favorise le passage des germes sur les aliments et dans l'eau potable.
Et qui a découvert la bactérie salmonelle?
Un Américain, Theobald Smith, en 1885. Il était simple laborantin à l'administration fédérale de l'agriculture au bureau des industries animales. Smith isole la bactérie sur des glandes de porc. Il publie ses résultats sous l'autorité du chef du bureau, le docteur Daniel Salmon, un vétérinaire qui a étudié les théories de Pasteur. La bactérie est nommée Salmonelle en l'honneur de Salmon en 1900. Ainsi, Salmon va pouvoir comprendre l'importance de la prévention pour les troupeaux. Après une belle carrière, il meurt le 30 août 1914 sans avoir vu la plus grande application de sa découverte.
Laissez-moi deviner, un vaccin utilisé pendant la Grande Guerre.
Oh, quelle science! Oui, c'est le Britannique Almroth Wright qui met au point le vaccin en 1904. Grâce à lui, en 14-18, les soldats survivent aux conditions abominables des tranchées, mais malheureusement pas toujours au combat. Malgré cela, les 2500 variantes de salmonelle, dont la typhimurium, continuent de perturber nos vies, car ces bactéries résistent bien au froid et circulent au rythme des transports frigorifiques. Ces compagnes discrètes de notre histoire exigent encore recherche et hygiène pour limiter leurs effets cruels.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi, juste avant 6h15.
Europe 1. Il est 6h17, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h d'infos et la principale, c'est bien évidemment ce matin la fin de la traque de Chérif Chekat. Le principal suspect de l'attentat de Strasbourg a été abattu par la police hier soir aux alentours de 21h dans le quartier où il se cachait depuis mardi. À 6h20, nous serons en ligne avec Alain Fontanel, le premier adjoint de la mairie de Strasbourg.
Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Chérif Chekat est mort. L'auteur de l'attentat de Strasbourg a été tué par la police hier soir dans le quartier du Neudorf. Il a été vu sortant d'un immeuble par une patrouille sur laquelle il a tenté de tirer. Les policiers ont riposté. L'agence de propagande de l'État islamique a affirmé que le terroriste était l'un de ses soldats. La motion de censure largement rejetée à l'Assemblée. Elle avait été déposée par les députés de gauche contre le gouvernement. 70 ont voté pour, dont ceux du Rassemblement national. Enfin, cette bonne nouvelle, les tarifs réglementés du gaz vont baisser de 1,9% le 1er janvier. Une annonce de la Commission de régulation de l'énergie.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 14 décembre 2018. L'info principale de la nuit, c'est bien sûr la fin de la traque de Chérif Chekat. Le principal suspect de l'attentat de Strasbourg a été abattu hier soir vers 21h par la police dans le quartier où il se cachait depuis mardi. Bonjour Alain Fontanel.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le premier adjoint de la mairie de Strasbourg et vous avez été un des premiers témoins de l'attaque de mardi soir puisque vous étiez dans ce quartier du centre-ville où Chérif Chekat a ouvert le feu. Au-delà de votre rôle au sein de la cité, évidemment, vous devez être simplement très ému en tant qu'homme ce matin, Alain Fontanel. Pas mal d'images doivent se bousculer dans votre tête, j'imagine.
Oui, effectivement, c'est un soulagement. Il y avait une pression très forte. Notre ville a été attaquée, meurtrie. Plusieurs morts, de nombreux blessés, et puis il y avait cette incertitude. Nous ne savions pas s'il était encore ici, s'il allait attaquer à nouveau. Et donc il y avait beaucoup de pression et d'angoisse dans la ville.
Sur l'attaque en elle-même que vous avez donc vécue, vous dites « j'ai vu des gens arriver, j'ai entendu du bruit, j'ai vu un corps au sol et ensuite j'ai été confiné ». Sur place, il y a eu de la panique, de la peur, puis beaucoup de sang-froid. Vous tenez ce matin, j'imagine, à saluer le courage des Strasbourgeois et tous ceux qui étaient présents ce soir-là.
Oui, le courage des Strasbourgeois... Et la solidarité qui a été la leur dans cette épreuve. Il y a eu cette chaîne de taxis qui a été organisée pour ramener les gens chez eux. Il y a eu cette prise en charge par beaucoup de Strasbourgeois à leur propre domicile, des personnes confinées ou les restaurateurs encore. Et puis, il y a ces héros anonymes qui se sont jetés sur lui pour essayer de le neutraliser et qui l'ont payé pour certains de leur vie. Mmh.
Est-ce que, à l'heure où on parle, le quartier où a été abattu Chérif Chekat est toujours bouclé par les forces de l'ordre ou c'est fini ?
Alors, je ne sais pas exactement si le périmètre de la maison où il a été intercepté est encore coupé ou pas, mais je pense que globalement, les choses sont revenues à la normale. Mmh. C'est allé assez vite hier soir.
Et pour la journée qui s'annonce, pour les transports, pour les écoles, est-ce que là aussi on peut parler d'un retour à la normale ou encore...
Oui, un retour à la normale. C'était déjà progressivement le cas hier. Mais il restait cette incertitude. Je pense que c'est surtout psychologiquement un retour à la normale. Nous allons enfin pouvoir commencer à tourner la page et reprendre le cours normal de la vie.
Alors, on tourne la page, évidemment, on pense aux victimes. Est-ce que vous avez un dernier bilan ? Vous connaissiez les victimes ?
Oui, pour l'instant, il y a 3 personnes décédées. Il reste 13 personnes blessées. 3 sont sorties hier de l'hôpital. Mais il y a des personnes qui sont toujours dans une situation critique. Nous pensons bien évidemment à elles et à leurs proches.
Le marché de Noël va réouvrir aujourd'hui ?
Oui, la décision a été prise avant même la neutralisation du terroriste. C'était un acte fort, montrer que notre ville se relevait, défendait son histoire, ses traditions et ne cédait pas aux attaques terroristes et à l'obscurantisme.
Vous avez déclaré qu'il y avait une ambiguïté quand on parlait de la sécurisation d'un événement comme le marché de Noël de Strasbourg. Vous dites « ce n'est pas un aéroport, c'est au cœur d'une ville où il y a des milliers de personnes qui rentrent et sortent toutes les heures pendant un mois. Il y a un dispositif de sécurité qui vise évidemment à réduire les risques, mais on ne passe pas par un portique. » Ce que vous dites en gros, c'est que c'est impossible de garantir un risque zéro sur un événement comme le marché de Noël. Ce n'est pas un aéroport, quoi.
Oui, tout à fait. C'est un centre-ville. Il y a énormément de monde, ne serait-ce que le week-end pendant le marché de Noël, il y a près de 200 000 personnes qui rentrent dans la ville pendant le samedi et dimanche. Et vous savez, un dispositif hermétique, ça n'existe pas. Ou alors c'est un état policier et c'est évidemment pas la situation d'une démocratie.
Est-ce que pour autant vous avez renforcé les sécurités pour le marché de Noël depuis l'attaque de mardi soir ?
Oui, parce que l'on considère que la menace est plus grande, elle était plus forte et à partir du moment où on réouvrait le marché de Noël sans avoir intercepté, neutralisé le terroriste, il fallait prendre des mesures supplémentaires. Mais la philosophie du dispositif de sécurité reste la même, mais il y aura plus d'hommes. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que plusieurs équipes supplémentaires de militaires et de policiers arrivent à Strasbourg. Par ailleurs, nous allons avoir un marché Noël qui s'arrêtera un peu plus tôt le soir, ce qui permettra aussi aux hommes de tourner et de se reposer plus facilement. Et enfin, nous allons avoir à l'entrée, sans aller jusqu'à un système de fan zone ou d'aéroport, nous allons quand même vers des contrôles renforcés.
Alain Fontanel, merci. Une toute dernière question sur la mobilisation éventuelle des Gilets jaunes ce samedi. Est-ce que vous avez un message à faire passer de ce côté-là ?
Oui, je crois que notre ville a été extrêmement blessée, meurtrie. Elle se reconstruit progressivement. Elle n'est pas en situation de gérer de nouveaux affrontements, de l'attention supplémentaire. Et je tiens à rendre hommage aux forces de police et à la préfecture, au ministère de l'Intérieur. Ils ont été exemplaires dans la traque. Il faut aussi, la fin de l'année approche, le 31 décembre est une date aussi importante. Il faut permettre aussi à chacun de reprendre le cours normal de la vie, de se reposer.
Oui. Donc en clair, vous demandez aux Gilets jaunes de rester à la maison. Voilà.
Voilà,
merci beaucoup Alain Fontanel. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint à la ville de Strasbourg. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient, le froid s'installe. Europe 1.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant de retrouver le journal de 6h30, la météo de Céline Dacosta et le froid qui est là.
Oui, on a dégelé sur une bonne partie nord du pays jusqu'au centre-est. Les côtes bretonnes sont épargnées. Les températures vont de moins 6 à 0 degrés, 5 à 12 pour la moitié sud. Cet après-midi, on ne dépassera pas les 6 degrés sur la moitié nord et le centre-est, hormis Brest où il va faire 11 degrés. La moyenne sera de 6 à 13 degrés pour la moitié sud.
Et ma foi, le ciel, oui, il fait beau.
Oui, ce sera relativement ensoleillé, c'est vrai. Encore un petit peu de pluie ce matin entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et la Corse. Et puis une nouvelle perturbation arrivera sur la pointe bretonne avec de faibles averses à la mi-journée. Partout ailleurs, ce sera des nuages et surtout beaucoup de soleil.
Merci Céline. Restez avec nous dans une minute, le journal de 6h30.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où l'info et la bonne humeur avancent de concert. À suivre, politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent avec deux questions majeures. 1. Quel est donc ce tract interne qui agace la direction de La République En Marche? 2. Mickaël Darmon, notre éditorialiste, a-t-il mis ce réveil qui lui permettra de vous livrer cette chronique sur le tract interne de La République En Marche? Hier, figurez-vous qu'il ne l'a pas entendu et pourtant... Il avait choisi une sonnerie assez, je trouve, assez efficace.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, David.
Shérif Shekat a été neutralisé. Hier à 21h, des policiers l'ont localisé. Le terroriste leur a tiré dessus. Ils ont riposté, ils l'ont tué. Dans ce contexte, que vont faire les Gilets jaunes? Le mouvement se divise. Reportage avec des protestataires de Lorient dans ce journal. Et enfin, la trahison de Ford. Ce sont les mots de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, furieux après l'annonce du rejet de l'offre de reprise de l'usine de Blanquefort. 850 emplois sont menacés.
Europe 1.
C'est la fin de 2 jours d'angoisse à Strasbourg. La police a fini par abattre Shérif Shekat hier à 21h. L'assaillant du marché de Noël s'est fait repérer dans une rue du quartier du Neudorf. Il a ouvert le feu sur les policiers qui ont riposté. Tant qu'il était introuvable, les habitants craignaient qu'il frappe à nouveau. C'est donc un soulagement que les Strasbourgeois ont immédiatement ressenti. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Mathieu Bock.
À l'annonce de la mort du fugitif, les habitants sont descendus dans la rue, soulagés. Ils sont alors tombés nez à nez avec des policiers casqués qui repartaient en convoi.
J'ai le milieu à faire. Hein, ils l'ont eu, ils nous ont bien ennuyés pendant longtemps. Hein. Comme ça, les victimes sont vengées.
Honnêtement, on est vraiment soulagés qu'ils soient éliminés, donc on est tranquille, on peut dormir tranquillement. On se disait peut-être qu'il est dans le bâtiment, on ne sait pas. Et on avait vraiment peur.
Quand on se croisait, même les voisins entre nous, on se regardait avec la peur, on se disait bonjour, mais on était toujours avec la crainte que voilà, on savait qu'il était à côté ou pas. C'était très, très vague. Et là, le fait qu'il soit arrêté, c'est sûr, c'est un très, très gros soulagement, évidemment.
Désormais, les habitants se demandent comment cet homme, recherché par plus de 700 policier a pu passer 48 heures dans son quartier sans être repéré.
Passer inaperçu, non. Tout le monde se connaît ici, oui. Comment il a fait? Peut-être des complices. Hein. Il a dû être cherché ou peut-être habillé différemment, peut-être raser les cheveux ou autre, je ne sais pas. Mystère.
Shérif Shekat est donc mort dans la rue à quelques centaines de mètres du quartier où il a grandi. Strasbourg, Mathieu Bock, Europe 1.
Je vous rappelle que Shérif Shekat a tué 3 personnes mardi soir. Une autre est dans un état de mort cérébrale. Il y a aussi 12 blessés, dont 3 sont toujours entre la vie et la mort. Un autre de nos envoyés spéciaux à Strasbourg, Arthur Mbaché, a rencontré Darius, un jeune homme bouleversé, déboussolé, car c'est l'ami de l'un de ses blessés, toujours aujourd'hui dans le coma. Et c'est aussi un ancien voisin du terroriste.
Shérif et Bartek, le voisin et l'ami, les prénoms et les souvenirs s'entrechoquent. Dans ma tête, ça résonne, dit Darius. Son ami Bartek est l'une des victimes de son ancien voisin Shérif Shekat. Le gamin taciturne, se souvient-il, sans arrêt recherché par les flics, dit-il.
C'est vrai, il y avait beaucoup de police ici, en fait. Il y avait une période où tous les 2 jours, il y avait la police, en fait, qui arrivait. Mais j'ai un souvenir de sa mère, en fait, vraiment détruite. Toute ça, toute la police, et puis peut-être son fils, il était peut-être agressif avec elle.
Et vous m'avez dit à l'instant... Cet ancien voisin,
oui,
a tiré l'autre soir sur un de vos amis?
Oui.
Il fait partie des victimes de l'attentat?
Oui. Quand mon ami m'a appelé, il m'a dit que c'était un Bartek. Alors j'ai appelé Bartek. Bah, évidemment, je suis tombé sur son répondant avec sa voix rigolote. Et puis, je suis prêt à me mettre au lit, quoi, en fait. Là, je suis claqué, quoi. Je sais pas quoi dire, en fait. Là, je peux dire, en fait, que là, mon voisin a tué mon ami.
Hier soir, aux dernières nouvelles, Bartek, le jeune homme au regard bienveillant et malicieux, le touche-à-tout curieux, traducteur polonais, journaliste, danseur, était entre la vie et la mort au CHU. Strasbourg, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Le média de propagande de l'État islamique a affirmé, peu de temps après son élimination, que Chérif Chekat faisait partie des soldats de Daesh. L'agence Hamak a avancé que l'attaque du marché de Noël répondait aux appels à cibler des citoyens des pays de la coalition.
Europe 1, il est 6h34.
Depuis deux jours, on ne compte plus les appels à l'attention des gilets jaunes, politiques, syndicats. Certains gilets jaunes eux-mêmes demandent l'abandon de l'acte 5 du mouvement prévu demain. Mais sont-ils entendus, ces appels, sur le terrain? Loin de là, sur les ronds-points, de nombreux manifestants sont toujours bien déterminés à rejoindre la capitale. Reportage à Lorient, signé François Coulon.
Une collection de bonnets rouges au milieu des gilets jaunes, mais un mot d'ordre monochrome. La menace terroriste ne stoppera pas notre mouvement, Marie.
C'est pas parce qu'il y a du terrorisme qu'on doit arrêter les gilets jaunes. Mais ça n'a aucun rapport.
Le rapport, c'est des forces de l'ordre qui sont hyper mobilisées maintenant.
Mais les forces de l'ordre, c'est leur boulot.
Mais elles n'ont pas flux.
Ils ont qu'à se mettre en arrêt maladie. Hein.
Est-ce que la priorité pour le pays, c'est pas la lutte contre le terrorisme là, à l'heure actuelle?
Non. Et on se bat pour des droits.
Débat nourri sur le rond-point de l'Anester, mais conclusion sans équivoque, Patrick.
La menace terroriste, c'est pas à nous de le gérer, ça. D'accord, c'est très très triste, mais regardez combien de personnes décèdent aujourd'hui par rapport à la pauvreté qu'on a en France aujourd'hui.
Pour la troisième fois, un car affrété par les gilets jaunes de Lorient va rallier Paris cette nuit, malgré quelques défections. André Bourla.
Il y a des gens qui ont dit, ben nous on n'y va pas parce qu'on a peur qu'il y ait un attentat. Ou par respect par rapport à ce qui s'est passé à Strasbourg. Mais le mot d'ordre reste le même, on n'arrête pas le mouvement.
Objectif, fêter ici Noël, voire le premier de l'an. Lorient, François Coulon, Europe.
À suivre dans ce journal, la trahison de Ford. Ce sont les mots de Bruno Le Maire. Il est furieux contre le constructeur américain. On vous explique pourquoi dans un instant. A tout de suite.
Europe 1, 6h36. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan. Le constructeur automobile Ford a déclenché la colère du ministre de l'économie.
Oui, Bruno Le Maire a parlé d'une trahison. En cause, le rejet par Ford du projet de reprise de l'usine de Blanquefort en Gironde. Les salariés avaient pourtant accepté de nombreuses concessions. C'est un énorme coup dur pour eux et pour l'État qui s'était beaucoup impliqué. Les explications de notre correspondant dans la région, Stéphane Place.
Dans la grisaille hivernale, la mine triste, ces ouvriers de Ford disent leur écœurement. Les syndicats avaient pourtant accepté un gel des salaires pendant 3 ans, une modulation du temps de travail, la perte de 3 jours de RTT pour appuyer ce plan de reprise. Venant d'entendre la colère du ministre de l'économie qui dénonce la trahison de Ford, Philippe Poutou, délégué CGT, refuse d'abandonner.
Quand on a un gouvernement ou un ministre qui parle comme ça, ou quand on a des gens, des pouvoirs publics et qui ont l'air assez remontés, il n'y a aucune raison d'abandonner là. Parce qu'en fait, c'est tellement dégueulasse que soit ça nous écrase, soit on se dit mais on va pas les laisser faire.
Aujourd'hui, l'usine emploie 850 personnes. Le plan de reprise devait préserver 400 emplois. Un projet industriel que l'État, mais aussi la région Nouvelle-Aquitaine et la métropole de Bordeaux s'engageaient à soutenir à hauteur de 15 millions. Véronique Ferreira, maire de Blanquefort.
Il faut absolument que Monsieur le ministre arrive effectivement à faire changer Ford de position. On a un site, on a un savoir-faire, on a des machines, on avait un repreneur. C'est quand même un sacré toupet de dire à des salariés, pour vous, il vaut mieux le chômage plutôt qu'une reprise.
L'arrêt de la production de boîte de vitesse est prévue pour l'été prochain, fin août 2019. Blanquefort, Stéphane Place, Europe 1.
Je vous pose une question pour conclure ce journal, David. Les salles de cinéma vont-elles disparaître?
Oui, vous me demandez cela parce que vous avez, avec la sagacité que l'on vous connaît, constaté comme moi que c'est un film Netflix, Roma, qui a reçu le Lion d'Or au Festival de Venise. Et vous ne pourrez pas le voir en salle, ce sera uniquement sur la plateforme américaine. Et donc, pour répondre à votre excellente question, Mathieu, je vous propose d'écouter l'analyse de notre expert Mathieu Charrier.
Pour sortir Roma, Netflix s'est offert une campagne de pub comme pour une sortie en salle. Pleine page dans le film français, l'hebdomadaire professionnel de référence, bande-annonce sponsorisée sur Allociné. Le géant américain veut faire savoir qu'après les séries, il débarque en force dans le 7e art. Il faut dire qu'avec ses 140 millions d'abonnés, il a les moyens et peut investir par exemple 140 millions de dollars pour s'offrir le prochain film de Martin Scorsese ou 45 millions pour imaginer un nouveau Pinocchio avec Guillermo del Toro, Oscar du meilleur réalisateur l'an dernier.
Si Pinocchio avait pu être financé par Warner, par Sony, par Universal,
Universal, j'en aurais été très heureux. Mais tous ces studios ont décliné. Vous savez, le monde est en train de changer. Quand le son est arrivé, les gens ont dit « c'est la fin du cinéma ». Quand la télé est arrivée, c'est la fin du cinéma. Quand les blockbusters ont débarqué, c'était la fin du cinéma. Et le cinéma est toujours en vie.
De leur côté, les distributeurs exploitants de salles crient à la concurrence déloyale, rappelant que Netflix ne paie pas d'impôts. Ils ont convaincu Thierry Frémaux de ne pas sélectionner Roma lors du dernier festival de Cannes. Résultat, le film a créé l'événement chez son principal concurrent, Venise. Netflix qui a annoncé travailler sur 700 projets en 2019 pour un budget de 8 milliards de dollars.
Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1.
C'était l'excellent journal de non moins excellent David Doucan. David avec qui on a tellement sympathisé qu'il ne supporte plus les week-ends. Il m'appelle en panique, parfois même au milieu de la nuit.
Vraiment, tu me manques. Oui. Tu me manques tellement.
Moi aussi, Yordani, pas devant c'est les gens. Pas devant les gens, David. Vite, la météo. Vous voulez vraiment que je le dise?
Ouais,
non,
oui.
Votre femme écoute. Céline D'Acosta. Passons à la météo. Alors, quel temps pour aujourd'hui,
alors,
Céline?
C'est plutôt calme et ensoleillé. On aura juste encore un petit peu de pluie ce matin entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et la Corse. Un petit peu plus de nuages entre le sud de l'Aquitaine et l'Alsace. Et puis, une nouvelle perturbation va arriver sur la pointe bretonne dans l'après-midi. Mais dans l'ensemble, c'est le soleil qui va dominer le tout sous des températures encore bien froide. Le redoux arrive pour dimanche. En attendant, ça sera encore bien froid demain.
Merci Céline et Baroque.
Et oui, on vous a demandé depuis ce matin 5h votre réaction à ce sondage affirmant que 20% des Français partent en vacances à Noël. Et c'est vrai, Sophie nous dit nous ne sommes jamais partis en vacances car c'est trop cher. Et même si je n'aime pas les fêtes de Noël, j'apprécie quand même de me retrouver autour d'un repas avec ma famille, avec une montagne de cadeaux. Et oui, les vacances de Noël, les repos de Noël, c'est surtout synonyme de famille. Et Marie-France, vous vous souvenez nous rappeler qu'elle avait très envie de venir voyager jusqu'à Paris pour découvrir les locaux d'Europe 1. Eh bien, je crois qu'elle a peut-être une chance avec vous, Céline D'Acosta. Hein.
Puisque jeudi prochain, le 20 décembre, Europe 1 vous invite à inaugurer ses nouveaux locaux à Paris, rue des Cévennes. Alors, nous vous invitons à assister à la matinale spéciale de Nikos Aliagas dans le nouveau studio Belmar et on vous offre votre séjour dans la capitale où vous serez logé dans un très bel hôtel 3 étoiles. Pour jouer, envoyez dès maintenant Nikos, N-I-K-O-S, par SMS au 739-21, 75 centimes plus le coût du SMS, 2 SMS pour jouer, ou vous nous appelez au 39-21, 50 centimes par minute. On vous attend et on vous souhaite évidemment bonne chance.
Moi, comme j'ai son 06, je vais lui envoyer directement un message à Nikos.
T'as raison.
Ça peut marcher.
Il est 6h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui prend l'info au sérieux sans jamais se prendre au sérieux. À suivre. Politique, économie, médias, plongés dans les coulisses de l'actualité avec notamment, pour peu qu'il n'ait pas oublié de mettre son réveil ce matin, Mickaël Darmon qui nous parlera de ce tract interne qui rend fou la direction de La République En Marche. Analyse, indiscrétion, vous verrez une fois de plus que les trois fantastiques sont vraiment les plus forts.
Même au Uno.
Oui, même au Uno, Céline, mais ça on s'en fout.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Shérif Shekat a été abattu, le terroriste a été repéré dans une rue du quartier du Neudorf. Il a ouvert le feu sur les policiers qui ont riposté, c'est la fin de deux jours de cavale. Les Strasbourgeois sont soulagés, le marché de Noël rouvrira ses portes ce matin à 11h. Trahison, c'est le sentiment du ministre de l'économie Bruno Le Maire suite au rejet du constructeur américain Ford d'un projet de reprise de l'usine de Blanquefort en Gironde. 850 emplois sont menacés. Enfin, la première ministre britannique a demandé hier à Bruxelles de nouvelles garanties pour l'aider à faire ratifier l'accord de Brexit. Les 27 se sont ouvertement agacés. Ils ont consenti à adopter un texte destiné à apaiser les inquiétudes des parlementaires britanniques. Mais c'est un document sans valeur juridique.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et à 6h43, c'est un miracle. Les trois fantastiques sont tous là. Même Mickaël Darmon. Ça mérite en effet une standing ovation. Mickaël Darmon a trouvé la fonction réveil de son smartphone. Un jour, vous oublierez votre tête, Mickaël.
Mais nous ne sommes pas rancuniers.
On commence quand même avec vous. Voilà un débat qui ressurgit, celui de l'identité nationale. Mais le mouvement qui le porte, et c'est surprenant, est La République En Marche. Comment vous expliquez ça?
Écoutez, c'est l'histoire d'un tract à la durée peut-être la plus courte de l'histoire politique, un peu plus de 3 heures, mais enfin qui en dit long quand même sur ce qui se passe en ce moment. Il est écrit par La République En Marche pour donc vanter le nouveau contrat de la nation annoncé par Emmanuel Macron. Jusque-là, tout est banal, sauf une ligne qui met le feu aux poudres chez les élus marcheurs. C'est à propos du grand débat national. Il est écrit, je cite, « avoir une réflexion collective sur l'identité nationale ». Cette notion portée par Nicolas Sarkozy en 2007 avait été le tournant de sa campagne et élu, le président Sarkozy avait nommé Brice Hortefeux ministre de l'immigration et de l'identité nationale. C'était un sujet devenu repoussoir pour la droite modérée et la gauche. Ulcéré, plusieurs élus ont fait savoir à Stanislas Guérini, le nouveau patron du parti, pas question de distribuer un tract avec les mots de Nicolas Sarkozy. Bon, il faut dire aussi que du côté du pôle droit de la majorité, on est moins ému. Moi, ça ne me dérange pas ce tract, s'exclame un député. C'est la victoire de Sarkozy après celle de Juppé. Alors quand même, pour éteindre l'incendie, Stanislas Guérini donc, a tout de suite admis que la formule était malheureuse. C'est une première mouture, ça a été retiré. Le nouveau texte parle d'identité de la nation qui englobe les enjeux de la citoyenneté et de l'immigration. Bon, c'est plus long, mais c'est plus nuancé.
Ça veut dire que le débat sur l'immigration s'annonce comme ultra sensible. Mais pourquoi l'avoir placé dans le grand débat lancé par le président ?
On avait raconté comment ce thème avec celui de la laïcité, de l'islam en France taraudait beaucoup d'élus devant le chef de l'État pendant son itinérance. La question est aussi présente au cœur des discours des Gilets jaunes, dont les plus durs forment maintenant une avant-garde populiste. Mais il est vrai aussi que ce débat crucial lancé par le président prend tout le monde de court. Certains membres du gouvernement, et non des moindres, expliquent en petit comité que ce débat n'est ni fait ni à faire, trop précipité, trop d'objectifs disparates, même s'il faut quand même poser les questions. Et des acteurs gouvernementaux craignent que tout cela ne débouche sur rien, comme le débat lancé par le président Sarkozy en 2009, il portait sur l'identité nationale.
Merci beaucoup Mickaël Darmon. De la politique, on passe à l'économie avec celui qui au fil des jours, ma foi, s'encanaille de plus en plus. On se souvient encore du Axel de Tarlé timoré, limite prude, qui rougissait à chaque fois qu'il était question de sites de rencontres, qu'il qualifiait d'ailleurs de...
Les sites de petites rencontres.
Sites de petites rencontres, preuve de son inexpérience. Et voilà depuis quelques jours un nouvel Axel, taquin, coquin, limite potache.
C'est la règle du one date. J'ai le droit de proposer à un ou une collègue de sortir après le travail, mais une fois. Donc vous voyez, c'est un fusil à un coup.
Quand je disais qu'il fallait vous décoincer, mon grand, je pensais pas que ça irait si loin, si vite. Axel, ce matin, retrouvez votre cœur de métier, l'économie. Total s'engage à ne plus fermer de stations-service en France. En 40 ans, le nombre de stations-service a été divisé par 3.
Oui, et c'est un drame qui participe au sentiment de déclassement dans certains territoires. Vous savez que dans 38 départements français, donc Corrèze, Cantal, Lozère, il faut faire en moyenne entre 15 et 38 minutes de voiture pour trouver une station essence. Donc en fait, il est arrivé aux stations essence, qu'il est arrivé aux petits commerces, l'arrivée massive de la grande distribution. Mmh. La grande distribution aujourd'hui, c'est 60% de la distribution d'essence en France. Donc comment elle a fait ? Elle a cassé les prix avec des automates partout, mais du coup, elle a forcé tous les petits indépendants qui du coup étaient trop chers à disparaître. Et vous savez que il y a des municipalités du coup qui maintenant reprennent des stations essence et qui les font tourner, comme à Brive-la-Gaillarde par exemple, dans une logique de service public.
Mais pourquoi Total s'engage aujourd'hui à ne plus fermer de stations ? Par philanthropie, Axel ?
Alors, c'est vrai qu'à côté de la grande distribution, en gros, maintenant, il ne reste plus que Total en France, qui a encore 3500 stations. Alors non, je les ai eues, il y a une logique économique. D'abord, Total a réussi à trouver une formule ultra low cost avec les stations Total Access. Voilà.
Mais ah oui, la marge est
toute petite.
Ouais. C'est moins cher, les Total Access. Moi, dès que je vois un Total Access, hop, j'y vais.
Voilà, alors ils gagnent trois fois rien, ils gagnent un centime par litre, mais ils font beaucoup de volume. Alors, en revanche, dans les zones reculées, là, impossible de faire du volume. Donc là, il faut faire beaucoup de services. Donc ils font de l'épicerie, des coins postes, ils font du café, de la boulangerie, etc. Et ça marche. Il y a aussi une logique de territoire. Parce qu'en fait, hier, Patrick Pouyanné était l'invité de Total. C'est là où il a annoncé qu'il ne fermerait plus de station. Et il a eu ces mots. Il dit la station, bien souvent, est l'ultime commerce dans les zones reculées. Donc vous voyez, il y a une logique de garder un lien dans les territoires. Mais je dois dire que c'est quand même assez déprimant de se dire que dans nos villages de France, le dernier lieu de vie, c'est la station essence. Vous savez, ça fait penser à ces villes fantômes américaines où il n'y a pas de centre et où les gens se retrouvent dans la station à la machine à café.
Ouais. Je précise quand même au CSA, s'ils nous écoutent, que j'aime aussi beaucoup Elf, Esso et Avia.
Elf, ça n'existe plus, mais bon.
Comment ça n'existe plus ?
Ah oui, si, la marque existe encore.
Si, c'est encore des pas n'importe quoi, ils sont super. Bon, merci Axel de Tarlé. Et Varoc, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Et si nous finissions la semaine en musique avec un garçon bercé depuis son enfance par les chansons de Brassens, c'est ça. À 100 ans, il y a 10 ans, il sortait un album intitulé Enfantillage, dans lequel il invitait d'autres artistes pour interpréter ses chansons, des chansons pour enfants et pas seulement. Il s'appelle Aldebert, il a un immense talent et ce soir, il vous invite à fêter cet anniversaire des 10 ans en chantant de nouveau ses titres pleins d'humour.
Vous connaissez, vous, des expressions avec des animaux, avec des noms d'animaux ? Il y en a plein dans la langue française.
Ah ouais, plein,
nu comme un cerf,
verni comme une girafe,
câlin comme un calamar,
être sourd comme un porc,
rusé comme un poulpe,
blanc comme un dindon,
étanche comme une grenouille,
joyeux comme un licaon,
gras comme un phasme,
timide comme un hyène.
C'est une hyène.
Oui.
On n'est pas des bêtes, c'est certain, mais on a le poil qui se hérisse. Et quand il fait un ton de chien, on dit qu'il pleut comme vache qui pisse. À chercher partout.
Tourner dans un appartement féerique avec une mention spéciale d'ailleurs pour la réalisation de cette émission qui s'appelle Bienvenue chez Aldebert. L'émission est une succession de scénettes qui sont drôles, poétiques. Alors aux côtés de Tété, Oldelave, Jennifer, Élodie Frégé ou encore une jeune artiste, Malou, qui demande à Aldebert, la vie c'est quoi ?
C'est quoi la musique ?
C'est du son qui se parfume.
C'est quoi l'émotion ?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment ?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie ?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance ?
C'est du temps que l'on sème.
Et c'est quoi le bon temps ?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'enthousiasme ?
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance ?
Les anges qui s'invitent.
C'est quoi l'espoir ?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel ?
Un monument aux vivants.
C'est quoi grandir ?
Se fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance ?
De la tendresse en pyjama.
Pour louper l'école, Madame Nature, Mon père il est tellement fort. Chaque titre est une histoire et chaque chanson un moment magique. Écoutez les mots qui swingent avec Ronan Luce. On ne peut rien faire quand on est petit.
Comment peux-tu expliquer ça ? J'ai retrouvé la télécommande, la télé dans la caisse du chat. Une fois, je te jure, on se demande.
Veux-tu laisser ce chat tranquille ? Regarde-moi cette pauvre bête. On ne fait pas de Scooby-Doo avec les moustaches de Pépette.
Qu'est-ce que fait ta sœur dans Cerisier ? Comment ça, elle est en orbite ?
Combien de fois dois-je te rappeler ? Justine, c'est pas un satellite.
On est tranquille que quand tu dors.
Et encore que la dernière fois,
on a retrouvé un albator.
Quand on s'est glissé sous les draps, on ne peut rien.
Alors
ça, me fait penser au Soldat Rose, moi, ça.
Mais oui, c'est exactement ce que j'allais
c'est
vous
dans la
dire.
Ligne, hein.
Exactement. Aldebert, c'est l'artiste de la famille, celui qui réconcilie les parents et les enfants, des chansons à plusieurs degrés dans la lignée d'Émilie Jolie ou du Soldat Rose. Je connais deux super petites filles, Louise et Joséphine, qui adorent reprendre en chœur ses presque comptines dans la voiture. Et si vous n'avez pas succombé au charme d'Aldebert, eh bien vous regardez France 4 ce soir à 21h. Et puis dimanche, vous vous retrouvez aussi en famille pour une énième diffusion de ça.
L'entrée est à 37 francs.
Ah non, pas du tout. Ah, c'est bon, le Père Noël est une ordure.
Oh, mais oui, on a chaud. Mais oui, Mathieu, le Père Noël est une ordure version film.
Il est temps
film.
Que le week-end arrive pour moi.
Exactement, c'est à déguster sans France 2 à 21h et c'est dimanche soir.
Il n'a pas rempli la case.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Axel de Tarlet. Bien sûr, Mickaël Darmon. Dites, Mickaël, rassurez-nous et surtout rassurez votre épouse. Si vous étiez absent hier matin, enfin, je veux dire, vous n'avez pas de relation extra-conjugale.
Officiellement, aucune.
Bien, vous voilà rassuré. C'est rassurant.
Il est 6h52, Mathieu Noël.
Mickaël, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, en fait, je rêvais de travailler avec vous et puis je ne me suis pas réveillé.
Mais oui, c'est ça, vous rêviez. Ah, c'est ça, vous étiez dans votre rêve,
bon,
en fait.
Avec
vous étiez
avec
vous, travail. Et c'était encore excuse. Meilleur que dans la réalité ou pas ? Souvent, c'est comme
le
ça.
Le débat est lancé.
Dans quelques instants, de vous, les copains, passera la main à la matinale de Nikos Aliagas. Une matinale dont la bonne humeur contractuelle pâtit, comme nous, de l'actualité très lourde cette semaine. Difficile hein, de déconner dans un climat si pesant. Néanmoins, jusqu'au bout, avec Nikos, nous tenterons d'impulser à nos matinales une dimension festive.
Vous savez, Axel de Tarlet, que vous avez des auditeurs en Espagne qui vous écoutent.
Voilà. Eh bah, gracias. De nada, compañero Axel de Tarlet.
Mais c'est la fête quand même.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Il arrive en studio, j'ai envie de dire, tranquillement ce matin, il rehausse le siège sur lequel j'étais assis d'environ 35-40 cm, rapport à ce petit point commun qu'il a avec Passepartout qui ne se voit pas à la télé. Voici, mesdames et messieurs, le moment le plus jubilatoire pour moi et le moins pour lui, le débrief de la matinale de Nikos Aliagas.
Espèce d'ordure.
Moi aussi, je vous aime fort, Nikos, même si je crois que j'aime encore plus Laurent Cabrol. Laurent, qui nous a quand même fait des frayeurs cette semaine, à nous et à toute l'équipe de l'unité psychiatrique de l'hôpital Pompidou. Mardi, on l'a quand même retrouvé errant en peignoir de bain dans le 15e arrondissement, un double décimètre à la main. Que foutait-il ? Sa réponse n'est pas rassurante.
J'ai mesuré les brouillards.
Laurent, qui après toutes ces années à la présentation de la météo, tombe encore dans des pièges de bleu que même Lolo Romeshko saurait déjouer, en cause une trop grande honnêteté. Quand il ne sait pas quelque chose, Laurent le dit, ce qui, comme vous le savez, est l'inverse de ce qu'il faut faire dans le showbiz. Hein. Il faut toujours bluffer, théorème d'Apathy. Ben Lolo, lui, il ne sait pas bluffer.
Moins 5 à Nevers, moins 3 à Bourges, 0 à Lille, 1 à Paris-Ville, 2 à... Je ne sais pas,
Mais non, Lolo, quand tu sais pas, invente. S'il y a des villes où il fait 3 et il y a des villes où il fait 1, ben, y a bien une ville quelque part où il fait 2. Personne n'ira vérifier. Mais bon, je n'aimerais pas partir en week-end en vous laissant sur une critique. Ça ne correspondrait pas à ma nature profonde, fondamentalement bienveillante. Non, ce matin, alors que Noël approche, j'aimerais vous parler d'une idée cadeau. Le coffret Cabrol Magic Christmas. Les meilleures fulgurances de Laurent Cabrol pour un Noël à la fois enchanteur, arrosé et potache.
Comment est-ce qu'on doit s'habiller ce matin ?
Bon. S'habille, ça dépend. Vous partez chargé et vous vous déshabillez au fil des heures.
Laurent Cabrol, je vous ai pas beaucoup photographié.
Ah, même pas du tout, ça me manque.
Il va falloir qu'on l'organise.
Bah oui.
Un petit shooting.
Mais aujourd'hui, je mettrai un bonnet avec un pompon, ce sera mignon.
Vous en avez, vous, du micro-rainurage, Laurent Cabrol, dans vos...
Je suis sûr que oui.
Ouais, moi, j'ai ce qu'il faut, moi. J'ai le grattage et le tirage. Et la prochaine fois, on sert mon pastis à moi.
Oui, un Noël familial.
Certains allument leur cheminée dans la chambre. Très mignon, faire un petit câlin.
Un Noël détox.
Ah, c'est un temps à manger la poule au pot, c'est un temps à manger de la garbure. Vous en mangerez, mon cher Nico, parce que vous allez vous régaler avec la garbure et la poule au pot. Quand vous reviendrez, vous aurez pris 4 kilos.
Un Noël fraternel.
Vous avez le froid ou non?
Non, j'aime pas le froid du tout, je suis très frileux.
Fabio, comme vous voulez, de manière, on s'en fout.
Et pour nos amis anglo-saxons, le coffret Cabrol's Magic Christmas existe aussi en anglais.
Yes, you can marry.
Je vous laisse. Merry Christmas. Nikos, en forme pour cette ultime matinale de la semaine ?
C'est une maison bleue. Je suis en forme ce matin.
Ah bah, qu'est-ce que ça doit être quand vous n'êtes pas en forme ?
Bravo.
Bravo,
et bonne journée à vous, Nico.
Mais votre humour, votre savoir-faire, c'est la meilleure façon d'honorer celui qu'on aime.
Évidemment,
ici,
on embrasse Laurent.
Qui est de notre cœur, Laurent Cabrol, je vous embrasse.
On vous aime, Laurent.
Oh non.
Merci. Tout ça pudique. Eva Rock, Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour, Nicolas, bonjour.
Et merci.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.